France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhardt, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnay. Quand les juges restent les derniers garants de la vie démocratique, quatre émissions sur quatre bras de fer engagés par le pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Nous parlerons demain du sursaut de la Cour suprême en Israël face à la réforme voulue depuis 2 ans par Benjamin Netanyahou. Mercredi, de ces juges que Giorgia Meloni qualifie de « rouges » en Italie. Jeudi, à Hong Kong, de la fin annoncée de l'indépendance judiciaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, les juges fédéraux en état d'urgence face à l'avalanche de décrets pris par Donald Trump.
Le document suivant est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons économiser plus de 1 000 milliards de dollars en nous retirant de ce traité.
Ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment dans ce pays, c'est à une administration Trump qui avance à 100 à l'heure dans 100 domaines différents et qui, quotidiennement, enfreint la loi en violant la Constitution des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est si important que des affaires soient portées partout à travers ce pays pour s'assurer que nous répondons avec la même urgence à l'anarchie qui règne à Washington, D.C.
Si les juges ne peuvent pas dire ce qu'est la loi, s'ils ne peuvent pas dire à un président ou un vice-président ou une personne non élue ou même le Congrès ce qu'est la loi, et s'ils ne peuvent pas les empêcher de prendre une mesure illégale inconstitutionnelle, alors qu'avons-nous ? Nous avons un pouvoir hors de contrôle.
Même dans des temps anarchiques, il n'y a pas que des rapports de force. Même dans le chaos général, la justice continue, semble-t-il, à compter. Alors que Donald Trump a pris des mesures à tour de bras depuis son investiture, dont certaines menacent directement le fonctionnement de l'État fédéral, les juges veillent et parent comme ils peuvent aux coups portés à la Constitution. Le 23 janvier, le juge Kunauer à Seattle suspendait le décret qui remet en cause le droit du sol. Un peu plus tard, un autre à New York interdisait au département de l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk d'accéder aux données stockées au Trésor américain comme lui le souhaite pour, dit-il, lutter contre la fraude. Une juge de Washington sursoyait encore le gel décidé par Donald Trump de 3 000 milliards de dollars d'aide publique. Ne jamais rater une occasion d'employer le verbe sursoir. Les juges fédéraux veulent s'assurer d'abord de la constitutionnalité de tous les executive orders pris par Donald Trump. Alors si celui-ci accuse les juges d'être politisés quand ils ont été nommés par un président démocrate, ou alors traîtres quand ils l'ont été sous mandat républicain. Si lui et son équipe ont déjà préparé tous les argumentaires pour porter ces affaires en appel, il n'en reste pas moins que ces juges comptent bien jouer leur rôle de contre-pouvoir. Alors de quelle marge de manœuvre disposent-ils et qu'est-ce qui assure aujourd'hui leur véritable indépendance et neutralité? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Vincent Michelot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon et vice-président des relations internationales de l'ENS Lyon. Vous êtes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Nous sommes ici dans le studio de Culture Monde avec Ludivine Gilly. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des États-Unis, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez fait paraître il y a 2 ans la révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie, aux éditions de l'Aube. Alors, Ludivine Gilly, d'abord, combien de mesures ont déjà été prises par le gouvernement de Donald Trump depuis son investiture? C'était il y a 43 jours. Et est-ce qu'il s'agit seulement de décrets dans la forme, sur la forme?
Alors, c'est une avalanche de mesures qui ont été prises par Donald Trump depuis son investiture. Et pas seulement des décrets. Il en avait annoncé 100. On n'en est pas encore à 100, mais après il y a décrets et décrets. Il en a pris 26 le jour de son investiture, ce qui est un record absolu. Et là, on en est à plus de 76 décrets.
C'est donc, plus que ce que chaque prédécesseur a fait lors de leur mandat entier, dit-on. Est-ce que c'est juste ?
Alors, lors de leur mandat entier, pas nécessairement, mais par exemple, lors de la première année de son mandat, Joe Biden en avait pris 77. Donald Trump en est à 76 ans. Alors, les chiffres sont arrêtés pour le moment au 27 février, donc 76 en 41 jours, en 38 jours. Il a également pris pas seulement des décrets présidentiels, mais aussi des mémorandas et des proclamations.
Qu'est-ce que c'est des mémorandas ?
Ce sont des actions présidentielles dans les deux cas, mais qui n'ont pas la même, le même pouvoir, la même puissance qu'un décret présidentiel. Donc on en est à un total de plus de 100 actions présidentielles, dont 76 décrets.
Sur plus de 100 actions présidentielles, dont 76 décrets, Vincent Michelot, est-ce que toutes ces décisions, toutes ces mesures se valent d'une certaine façon ? Ludivine Gilly disait il y a décrets et décrets. Desquels parle-t-on en particulier aujourd'hui ? Desquels les juges se saisissent, les juges fédéraux se saisissent en particulier aujourd'hui ?
Non, il y a des décrets qui sont importants, d'autres qui n'ont aucune valeur autre que performative, simplement pour le président d'annoncer ce qu'il va faire, ce qu'il est en pouvoir de faire, mais qui ne feront l'objet d'aucun contrôle de constitutionnalité. Les décrets les plus importants sont ceux qui tendent d'étendre, d'augmenter le pouvoir du président, de lui donner des pouvoirs qui vont bien au-delà de ceux qui sont définis strictement par l'article 2 de la Constitution des États-Unis. Donc il s'agit pour Donald Trump de tester les limites de l'interprétation constitutionnelle quant à ces pouvoirs qui sont ceux du président, et notamment on pense à bien sûr au décret qui remet en cause le droit du sol, mais de manière encore plus importante aujourd'hui dans les médias, il s'agit de voir si le président des États-Unis ou le Doge qui parle pour lui a par exemple le pouvoir de geler les crédits ou encore de licencier une série de fonctionnaires fédéraux américains.
Le Doge, c'est ce département de l'efficacité gouvernementale dont Elon Musk est à la tête, qui n'est pas un ministère à proprement parler. On avait dans une émission, Anne Desine nous avait longuement expliqué le statut de ce Doge, qui est en fait une association. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. En revanche, combien de recours, cette fois, Ludivine Gilly, si on doit continuer à dresser une sorte de paysage pour poser les bases de cette discussion, combien de recours, il se trouve que le monde universitaire aux États-Unis est en ébullition et recense aussi tous les recours. L'Université de New York, notamment, qui a un site, Just Security, en fait le décompte précautionneux et averti. Alors, on en est à combien aujourd'hui ?
Alors, selon les derniers décomptes dont on dispose, qui ne sont pas nécessairement entièrement à jour, on en est à 95. Selon d'autres chiffres que j'ai vus circuler, on a dépassé 100 recours. Et une chose importante à noter, c'est que ces recours, de la même manière que les décrets ne se valent pas, les recours ne sont pas du même type non plus. Et ils émanent de toute une variété de personnes, d'organisations, d'institutions, puisqu'on a à la fois des individus qui sont derrière, on a des associations, des syndicats, mais encore et surtout, pour les recours les plus importants peut-être, des États fédérés, par la voix de leur ministre de la Justice, et également des coalitions d'États fédérés démocrates, qui se sont préparés depuis de longs mois, puisqu'on savait avant la prise de fonction de Donald Trump le type de mesures qui s'annonçaient. Et donc l'opposition s'était préparée, que ce soit au niveau de la société civile ou au sein des États fédérés démocrates.
Quand il s'agit des États fédérés démocrates, il y a par exemple, en ce qui concerne le décret sur la suppression du droit du sol, plusieurs procureurs généraux, que ce soit ceux de Washington, l'Arizona, de l'Oregon, de l'Illinois, ont posé des recours contre cette mesure-là. Vincent Michelot, est-ce que n'importe quel juge fédéral peut être saisi et se saisir n'importe quand de n'importe quelle décision de l'État fédéral, où il y a certaines conditions ?
Non, les juges fédéraux ne peuvent pas s'auto-saisir.
Ils sont saisis.
Ils sont saisis. Et la particularité du système judiciaire américain, c'est que les associations nationales de défense des droits ou des libertés civiles ont parfaitement la possibilité de saisir un tribunal fédéral dans un État ou dans un autre, pourvu qu'ils aient sous la main un cas précis, concret, d'un individu dont les droits sont violés par une mesure qui est prise par l'État fédéral, que ce soit un décret présidentiel ou un autre type de mesure.
Et donc il faut qu'une personne soit concernée par le litige dans un État.
Absolument.
Par exemple, sur le droit du sol, ça a été le cas.
La Constitution l'exige. Il faut que, on parle en anglais de live controversy, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cas concret. Les tribunaux fédéraux ne peuvent pas juger en théorie, a priori, avant que la loi ou le décret ne s'exerce.
Est-ce que ça veut dire que ces associations de défense des droits dont vous nous dites l'un et l'autre qu'elles peuvent saisir la justice recherchent aussi le cas parfait pour le porter devant les tribunaux, Vincent Michelot ?
Ça a toujours été la tradition aux États-Unis. On recherche à la fois le cas parfait pour illustrer, incarner, porter un contentieux judiciaire, et on recherche aussi en première instance le bon tribunal pour porter ce contentieux devant la justice.
Donc ça a été le cas par exemple pour le décret sur le droit du sol. Le procureur général de l'État de Washington, Nick Brown, parle ici de cette décision prise par un juge fédéral de Seattle de bloquer l'initiative de Donald Trump visant à mettre fin au droit du sol.
Ce que le juge Kunauer a fait aujourd'hui, c'est simplement réaffirmer ce qui a été la loi du pays pendant 150 ans, à savoir que l'on est américain si l'on est né sur le sol américain. Nous disposons d'un processus permettant d'amender la Constitution, mais il s'agit d'une discussion politique que le Congrès américain et les législateurs des États doivent ratifier. Si nous voulons changer de politique en tant que pays, nous devons suivre ce processus et avoir un débat dans ce pays, et pas simplement avoir un prétendu roi qui signe des ordres exécutifs à tout va.
Donc il faut, Ludivine Gili, suivre un processus tel que vous nous l'avez décrit avec Vincent Michelot. À chaque fois qu'un juge se saisit, un juge fédéral, on n'a pas reprécisé qu'un juge fédéral, c'est soit un juge de district, ils sont environ 800 sur le territoire états-unien, ce sont les juges de première instance qui suspendent donc en ce moment les décrets de Donald Trump. Il y a aussi les juges des cours fédérales d'appel et les 9 juges de la Cour suprême. Là, on en reste pour l'instant à la première instance. Ces juges de district, il y a toute une procédure à respecter, même pour des décrets qui violent très manifestement la Constitution états-unienne. Le droit du sol, c'est le 14e amendement, il est appliqué depuis 150 ans. Même là, il faut toute une procédure.
Oui, on ne devrait logiquement pas avoir à en passer par là, puisque on ne s'attend pas à ce que le président viole la Constitution. Mais là, le décret, en l'occurrence celui sur le droit du sol, remet en cause un élément qui est défendu, qui est protégé par le 14e amendement à la Constitution. Donc, face à cette remise en cause, il faut déposer une plainte dont la première instance, qui est un juge de district dans lequel la plainte est déposée, se saisit. Et ensuite, se lance une longue procédure qui peut, dans laquelle certaines mesures temporaires peuvent être prises avant la conclusion. C'est toute la difficulté dans ce genre de système, c'est-à-dire que le temps de la justice est extrêmement long. Pour avoir une décision définitive, il faudra vraisemblablement des mois, voire ultimement des années. Mais comme on l'a vu dans un certain nombre d'affaires déjà, les juges peuvent, avant de se prononcer sur le fond d'une affaire, prendre une décision qui suspend l'exécution de la mesure. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, pour le droit du sol, mais pour une dizaine d'autres affaires également. Le juge, s'il pense que le plaignant a une chance raisonnable d'obtenir satisfaction in fine, et si l'exécution de la mesure peut causer des torts irréparables, le juge peut suspendre l'exécution. Et c'est ce qu'on a vu pour le droit du sol.
Pour le droit du sol, donc manifestement des associations ont porté donc cette affaire, ce décret du droit du sol, ont porté un recours auprès du juge fédéral de Seattle, en ayant trouvé sans doute une personne concernée par le litige qui est en voie de naturalisation, et sa démarche est brutalement suspendue. Vincent Michelot, tout ce processus que vous nous racontiez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le court shopping aux États-Unis, des associations qui recherchent le cas parfait pour le porter devant les tribunaux et surtout la bonne circonscription judiciaire, là où ils pensent que le juge sera sensible à cette question-là. On y viendra. Les juges fédéraux sont-ils des juges politiques ou politisés ou pas? En revanche, il y a des cas, des recours qui ont été portés devant les tribunaux et qui ont tourné court. Alors ça aussi, c'est intéressant d'y revenir. Plusieurs cas qui ont tourné court, à chaque fois, Vincent Michelot, pour quelles raisons? Et est-ce que ce sont les mêmes juges qui ont d'abord suspendu un décret avant de finalement revenir sur leur décision et, je ne sais pas comment dire, désuspendre le décret?
Dès lors que l'on dépose une plainte devant la justice, elle suit son cours normal, et donc il y a un processus de contestation de la part des parties. Et évidemment, certaines parties ne sont même pas en droit d'aller en justice. Et donc, c'est à ce niveau qu'on rejette un certain nombre de plaintes, puisque il n'y aurait pas de cas concret sur lequel s'appuyer. Les motifs peuvent être frivoles, la plainte peut être mal rédigée. En tous les cas, un certain nombre de ces décisions de rejet l'ont été, tout simplement parce qu'il y a aussi une multiplication des procédures et que certaines sont légères. Il faut le dire. Mais ce qui est le plus important, c'est sans doute de dire aussi que on en est pour le moment que à la première instance, et que très vite un certain nombre de ces procédures importantes vont être l'objet d'un appel, et on sait déjà pratiquement que la question du droit du sol viendra devant la Cour suprême dans des délais très très brefs. Je ne serais pas surpris qu'elle soit inscrite au rôle de la Cour dès la fin du printemps de cette année.
Le décret de Donald Trump, dont plusieurs juristes, ils sont très nombreux à dire qu'il est absolument anticonstitutionnel, ce décret sur le droit du sol. Le ministère de la Justice de Donald Trump assure quant à lui que ce décret interprète correctement le 14e amendement. Donc on verra ce qu'il en est, puisque comme vous le dites, très certainement ce décret-là va être porté en appel et puis peut-être jusqu'à la Cour suprême. Alors d'autres décrets ou mesures prises par Donald Trump ne connaissent pas le même sort, ou en tout cas ne sont pas aussi nettes dans la façon dont ils font une entorse à la Constitution états-unienne. C'est le cas, par exemple, de ce décret qui a été pris sur le contrôle du système de paiement du Trésor par le département de l'efficacité gouvernementale, donc le DOGE dirigé par Elon Musk. En fait, pour le dire vite, ce DOGE devait pouvoir contrôler toutes les transactions pour examiner celles qui sont suspectes et ainsi lutter contre la fraude. C'est ainsi que Donald Trump a justifié ce décret. Et quand le juge fédéral a émis une ordonnance en urgence pour suspendre ce décret-là, Donald Trump a tout de suite réagi.
Well, we're going to see what happens. We have a long way to go, and we're talking about fraud.
Nous allons voir ce qui va se passer. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous parlons de fraude, de gaspillage, d'abus. Et lorsqu'un président ne peut pas rechercher la fraude, le gaspillage ou l'abus, nous n'avons plus de pays. Nous sommes donc très déçus par les juges qui ont pris une telle décision, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons trouver toutes les fraudes qui ont lieu. Nous avons d'énormes fraudes, d'énormes gaspillages et abus, ainsi que des vols. Le jour où l'on ne sera plus autorisé à rechercher les vols et les fraudes, il ne restera plus grand-chose de notre pays. Aucun juge ne devrait être autorisé à prendre ce genre de décision. C'est une honte.
C'est une honte, disait Donald Trump, et il se trouve, Ludivine Gili, que quelques jours après, un juge a suspendu l'annulation de ce décret. Alors sur quel motif? Est-ce que c'est le même juge qui avait d'abord suspendu le contrôle du système de paiement du Trésor par le Doge qui ensuite est revenu sur sa décision, ou c'est un autre juge fédéral qui en a décidé ainsi?
Alors cette affaire-là, je suis pas exactement sûr. Il me semble que c'est le juge qui s'était exprimé initialement et qui avait suspendu,
qui a examiné, voilà. Qui sait, et pourquoi? Donc c'est selon ce que vous nous disiez tout à l'heure, il s'est dit que finalement c'était une association étudiante de l'Université de Californie qui avait porté le recours devant la justice, qui ne voulait pas que les informations sur les étudiants soient utilisées. Et lui a finalement dit, en fait, vous ne pouvez pas prouver que vous en serez pénalisé, vous ne pouvez pas... le préjudice est complètement hypothétique et vous ne fournissez aucune preuve au-delà de la spéculation que le Doge pourrait utiliser ces données à mauvais escient.
Voilà, c'est la notion de préjudice, voilà. En fait. Donc, dans un premier temps... Un juge va évaluer le préjudice qui peut être occasionné par la mise en œuvre de la mesure. S'il estime qu'il y a potentiellement un préjudice irréparable, il va suspendre. Il peut donner un délai et dire « je vais regarder et au bout de 3 jours, 4 jours, je vais me prononcer ». Au bout de ces 3-4 jours, parfois le délai est étendu. C'est ce qui avait été fait sur l'affaire de la démission différée, où il avait été proposé aux fonctionnaires de démissionner dès la fin du mois de janvier, le début du mois de février, et que la démission soit effective au mois de septembre, tout en étant payé entre-temps. Cette mesure-là a été portée devant les tribunaux. Et le juge a mis un certain temps avant de se positionner en suspendant, puis en repoussant, en donnant un peu plus de délai, avant de finalement ne pas se prononcer.
Il s'est pas prononcé, Elon Musk a juste
pas
dit...
Pas sur le fond, en tout cas.
Oui, voilà. Et donc, juste Elon Musk a dit, bon, on va vous envoyer les mails, vous avez un petit peu plus de temps pour répondre, parce qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, cette question posée aux fonctionnaires,
et si les fonctionnaires...
Ah, c'est encore un autre sujet. D'accord, donc c'est vraiment très complexe. Mais il y a une question que vous connaissez bien, Ludivine Gili, c'est la question du plan de départ pour les fonctionnaires, donc voulu par Donald Trump, celui qui incitait les fonctionnaires fédéraux à démissionner. Vous étiez en train de nous en parler. Là, sur quel motif? Alors, je croyais... D'accord, la décision... Pardon, c'est tellement compliqué. On va y arriver. Pour quel motif le juge a-t-il dit que finalement, il ne se prononçait pas? Voilà, c'est ça la question.
En fait, sur la question des départs de fonctionnaires... c'est une très bonne question. Je ne sais plus.
Je crois qu'il a dit que c'était pas lui. En fait, c'est pas lui qui est compétent. Ce sont pour lui, ce sont des associations type Federal Labor Relations Authority.
Je ne sais plus si c'est sur cette mesure en particulier ou pas. Il y a effectivement l'une des mesures concernant les démissions de fonctionnaires sur laquelle la plainte avait été portée par un syndicat. Et le juge fédéral a indiqué « Je ne suis pas l'instance compétente pour gérer cette question-là. Vous devez aller voir le National Labor Relations Board, qui est une instance qui est en charge de la gestion, normalement, des conflits entre les fonctionnaires et leurs supérieurs. » Un point d'information intéressant sur ce sujet-là, c'est que c'est l'une des instances dont Donald Trump a essayé de faire dégager la hiérarchie la plus élevée, qui est supposée être indépendante, justement pour pouvoir arbitrer lorsqu'il y a des conflits entre l'exécutif et les fonctionnaires.
Alors Vincent Michelot, maintenant à chaque fois que un juge fait un recours ou est saisi par des associations et relève le défi d'examiner un de ces décrets et ensuite en juge plus tard, Donald Trump dit qu'il est soit politisé, soit que c'est un traître si celui-ci a été nommé par un président républicain. Qu'est-ce qu'on peut dire de la politisation des juges fédéraux, ou à tout le moins de la façon dont ils interprètent les textes législatifs, parce que il y a aussi tout est aussi à faire dans cette histoire d'interprétation.
Plusieurs choses. D'abord, tous les juges nommés par des présidents républicains ne sont pas des conservateurs MAGA, et tous les juges nommés par des présidents démocrates ne sont pas de dangereux progressistes radicaux, comme peut le dire le président Trump.
Par exemple, dans les décrets là, dont on parle depuis tout à l'heure, et les juges qui sont saisis et qui se prononcent, est-ce que tous ont été nommés par des présidents démocrates ou pas nécessairement ?
Pas nécessairement. On juge quand même déjà en droit, quand bien même tous les juges fédéraux, tous les magistrats fédéraux de première instance, d'appel et à la Cour suprême sont nommés par le président avec l'avis et consentement du Sénat. C'est l'article 2, section 2 de la Constitution. Et donc, on peut avoir des magistrats nommés, y compris par le président Trump, qui se prononce dans un premier temps contre un décret qu'il a pris. On peut avoir des juges démocrates qui laissent passer ce même décret. L'idée étant que depuis une trentaine d'années maintenant, avec une forte accentuation dans les 10 dernières années, les conservateurs américains ont pris conscience de l'énorme pouvoir dont disposait le judiciaire et ont en fait un effort particulièrement intense de sélection des magistrats fédéraux, à la fois en termes d'âge, plus on les nomme jeunes, plus ils restent dans les tribunaux et ont une influence, et puis une sélection véritablement idéologique. Et donc un magistrat fédéral nommé par le président Trump en 2019 a sans doute des chances d'être beaucoup plus conservateur qu'un magistrat fédéral nommé par le premier président Bush ou le deuxième président Bush. Donc on est dans une logique certes de politisation du judiciaire, mais qui n'est pas systématique. Elle est simplement le fait d'un intérêt de plus en plus important de la part du mouvement conservateur américain pour le pouvoir du judiciaire en l'absence de majorité réelle au Congrès.
Prenons l'exemple à l'inverse d'un juge nommé par un président démocrate, en l'occurrence Joe Biden, qui en 2023 avait nommé le juge Jamal Whitehead à Seattle. C'est lui qui a suspendu le décret visant cette fois à suspendre l'admission des réfugiés aux États-Unis. Il y a tout un programme qui a été élaboré aux États-Unis pour admettre des réfugiés, les accueillir. La façon dont il a, paraît-il, ou manifestement justifié sa décision de suspendre ce décret, c'est de dire qu'il a vu des réfugiés bloqués dans des endroits dangereux, des familles dont le projet de départ est annulé, des considérations avec lesquelles on peut être tout à fait d'accord ou en empathie, mais qui ne sont pas juridiques, Vincent Michelot. Ou pas.
Ce sont des considérations juridiques. À partir du moment où vous pouvez faire état d'une violation réel ou supposé des droits qui sont les vôtres en tant que citoyen des États-Unis ou en tant que résident légal sur le territoire des États-Unis, ce sont bien des considérations juridiques. C'est simplement le fait de traduire en droit à des concepts juridiques tels que, par exemple, la légale protection des lois, c'est-à-dire, par exemple, la loi s'applique à tous de la même manière, où qu'ils résident, quel qu'il soit. Donc, oui, on peut parler d'une interprétation qui est politique, mais il faut quand même rappeler une réalité très forte du judiciaire américain. On n'interprète pas la loi dans un contexte stérile, dans un contexte totalement apolitique. Il s'agit bien de personnes, il s'agit bien de droits, et l'égalité en 2025 n'a pas la même signification que l'égalité en 1875 ou en 1925.
Donc il y a toujours un contexte, bien sûr, et ce juge Jamal Whitehead a aussi avancé d'autres arguments juridiques pour suspendre le décret visant à suspendre l'admission des réfugiés aux États-Unis, en disant que même si le président américain dispose d'une large autorité sur les personnes qui entrent dans le pays, son pouvoir n'est pas illimité et ne lui donne pas le droit d'annuler la loi adoptée en 1980 par le Congrès qui instaurait le programme d'accueil en cours. Cette question du Congrès, la place que doit prendre le Congrès, Ludivine Gili, l'élaboration des lois. Elle est également mise en avant par cette juge fédérale de Washington qui a suspendu le gel des aides publiques décidées par Donald Trump. Alors, sous quel motif, là encore ?
Oui, le rôle du Congrès est extrêmement important ici, et ce qui se joue aussi depuis l'investiture de Donald Trump, depuis la prise de ces nombreux décrets, comme Vincent Michelot le signalait tout à l'heure, Donald Trump teste les limites du pouvoir exécutif. Et il les teste comment ? Il les teste face aux limites, on est dans un système d'équilibre entre trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Là, aujourd'hui, nous parlons beaucoup du pouvoir judiciaire qui met des entraves à l'exécution de certains décrets pris par le pouvoir exécutif. Mais il ne faut pas non plus oublier le pouvoir législatif. Et l'un des objectifs poursuivis par Donald Trump ici, c'est d'étendre le pouvoir de l'exécutif au détriment du pouvoir législatif. C'est-à-dire que normalement, selon la loi, selon la manière dont elle est appliquée jusqu'à présent aux États-Unis, lorsque le Congrès vote une loi et attribue des crédits pour la mise en œuvre d'une loi en particulier, le président n'a pas le pouvoir de ce qu'on appelle impoundment, c'est-à-dire de retenir des fonds qui ont été approuvés par le Congrès pour certaines missions. Et c'est précisément ce que fait actuellement Donald Trump par les décrets qui visent notamment à geler des aides. Les aides ont été adoptées par le Congrès et le pouvoir exécutif en bloque la mise en œuvre. C'est le motif qui a poussé le pouvoir judiciaire à suspendre l'exécution de ces décrets.
Ce sont des discussions d'ailleurs qui avaient déjà eu lieu sous Nixon ou sous le premier mandat de Donald Trump. Et cette juge fédérale de Washington, elle dit que ces aides représentent jusqu'à 3 000 milliards de dollars, que c'est une somme bien trop vertigineuse pour être gelée du jour au lendemain. C'est donc au Congrès de décider des affectations budgétaires, comme ce sera aussi au Congrès et aux élus de se prononcer sur des mesures prises par Donald Trump. Est-ce que la voie judiciaire, Vincent Michelot, ce contrôle de constitutionnalité des décrets, est-ce que c'est la seule et unique possibilité pour s'opposer à une décision de Donald Trump aujourd'hui ?
Dans la réalité, oui. On dira en quelque sorte l'opposition à Donald Trump combien de divisions. Or, aujourd'hui, les démocrates sont en majorité dans les deux chambres du Congrès et donc ne peuvent pas faire obstacle à l'adoption d'un, par exemple, d'un budget autrement que par l'obstructionnisme parlementaire. Donc c'est faire durer les choses un petit peu plus longtemps, mais on connaît le résultat final. Et donc, dans un premier temps, il faut s'y opposer par la voie judiciaire, mais le combat politique ne s'arrête pas. Et de la même manière, il faut aussi que les démocrates, et ils le comprennent, s'élèvent contre le discours plus général, plus politique, qu'on est en train d'entendre de la part de l'administration Trump. Je voudrais rappeler cette récente déclaration du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui disait que certaines décisions de justice qui pourraient être contraires aux intérêts de l'administration Trump ne seraient tout simplement pas respectées par l'administration Trump. Et là, il remet en cause une très longue tradition qui est que depuis l'arrêt Marbury versus Madison en 1803, les tribunaux judiciaires et la Cour suprême des États-Unis en particulier a le monopole de l'interprétation de la Constitution. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement face à un mouvement conservateur qui lui-même dit les tribunaux n'ont pas le monopole de l'interprétation de la Constitution. L'exécutif ou voire même le Congrès peut dire ce que signifie la Constitution.
Un article du Monde rappelait récemment un épisode que j'avais oublié, qui était en 2012, quand Barack Obama a critiqué la Cour suprême. Il s'était vu rappeler à l'ordre par un juge du Texas et qui avait, ce juge, demandé une lettre d'au moins 3 pages avec interline simple pour exposer la position du procureur général. C'est le ministre de la Justice qui s'en était chargé. Néanmoins, Ludivine Gilly, vous aussi, vous diriez que ce qui est en train de se passer, la remise en cause du judiciaire, c'est inédit dans l'histoire des États-Unis.
Ça n'est pas forcément inédit, mais il ne faut jamais oublier quand on regarde ce qu'il se produit, ce qui se produit aujourd'hui, quel est le contexte. Andrew Jackson, on cite assez souvent une tentative ou un épisode lors duquel Andrew Jackson, en 1832, aurait ignoré une décision de la Cour suprême. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je mentionne cet épisode-là, pourquoi ? Parce que 1832, c'était après la décision qu'a mentionnée Vincent Michelot, Marbury versus Madison de 1803, mais c'était 30 ans après cette décision-là. Nous sommes aujourd'hui en 2025, la Cour suprême depuis a beaucoup évolué, les États-Unis ont beaucoup évolué, et lorsque cet épisode était survenu en 1832, la Cour suprême, même si cela survenait après le fait que son pouvoir unique d'interpréter la Constitution avait été établi, ce pouvoir-là était encore relativement jeune. Aujourd'hui, nous en sommes avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'histoire derrière, et donc la remise en cause aujourd'hui de ce pouvoir de la Cour suprême n'aurait pas du tout le même impact que en 1832.
Vincent Michelot.
Oui, je voudrais compléter la remise en cause judiciaire. On la trouve durant de nombreux moments de l'histoire américaine. Il faut rappeler par exemple que le Sud ségrégationniste pratique un assaut systématique contre la Cour suprême en particulier, et dans les années 60, les mouvements conservateurs mettent partout sur les routes américaines des panneaux demandant la mise en accusation du président de la Cour suprême de l'époque, le juge Warren.
Qui avait invalidé la ségrégation dans l'éducation publique, notamment dans l'affaire Brown versus Board of Education.
Notamment. Mais la grosse différence entre cette période de l'histoire américaine et la période actuelle, c'est que à l'époque de la ségrégation, mais à d'autres moments aussi, c'était les juges qui étaient nominalement visés pour leur biais conservateur ou leur biais progressiste. On a eu le même affrontement entre la Cour suprême et l'opinion publique ou un président pendant le New Deal, notamment en 1937, mais aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est le droit même de la Cour suprême d'interpréter avec un monopole le sens de la Constitution, et ce sont toute une série de jurisprudences constantes qui sont des piliers du judiciaire américain qui sont remises en question. Donc on passe d'une interprétation très personnalisée du droit à une interprétation beaucoup plus théorique, fondée, qui s'appuie, entre autres, sur ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire, qui donne un pouvoir extraordinaire au président des États-Unis, bien au-delà de ce qu'on a connu dans les présidences les plus fortes.
La théorie de l'exécutif unitaire, qui veut qu'il n'y ait pas de limite à l'expansion du pouvoir présidentiel, c'est une théorie qui prend, entre guillemets, qui est portée par des universitaires et ce laboratoire d'idées, la Federalist Society, qui entoure Donald Trump. D'ailleurs, est-ce que vous diriez, Vincent Michelot, qu'aujourd'hui l'équipe de Donald Trump est bien plus préparée, ne serait même juridiquement, qu'elle ne l'était lors du premier mandat de Donald Trump, et qu'ils ont déjà réfléchi à parer à tous les coups par avance.
Bien sûr, la Federal Society à laquelle vous faites allusion, c'est elle qui conseille tous les présidents républicains dans leur nomination judiciaire de la première instance jusqu'à la Cour suprême depuis les années 80, hein, depuis les années Reagan. C'est une société entre guillemets savante, c'est plutôt un think tank dans la réalité qui a soigneusement préparé côté judiciaire ce deuxième mandat de Donald Trump. Et vous le rappelez avec justesse, lors de son premier mandat, Donald Trump était en quelque sorte le premier surpris de se retrouver dans le bureau ovale. Aujourd'hui, il y est totalement préparé, entouré d'une équipe, mais surtout entouré d'une pensée structurée qui n'est pas la sienne, mais qui est celle de tous ces conservateurs qui voient la transformation de l'État aux États-Unis, entre autres par la voie judiciaire.
Une équipe qui était bien moins formée lors du premier mandat de Donald Trump. Vous rappelez dans vos travaux, Vincent Michelot, le Muslim Ban, c'était ce décret qui interdisait l'entrée sur le territoire états-unien aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Et ce décret était tellement mal rédigé que chaque nouvelle version était systématiquement suspendue par des juges fédéraux. Désormais, Donald Trump semble entouré de personnes beaucoup plus compétentes d'un point de vue strictement technique. Peut-être Ludovine Gili, peut-être juste sur cette question de l'exécutif qui laisse entendre qu'il pourrait passer en force, comme le laisse entendre donc le vice-président James David Vance. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais on pourrait entrer dans une crise constitutionnelle, mais vous êtes prudente là-dessus, ça n'est pas encore le cas. Il y a une forme de négociation de tous les jours.
Oui, pour le moment, il y a eu des rappels à l'ordre de la part d'un juge, notamment dans le cadre du versement, ou plutôt du non-versement d'aide, qui avait été gelé et dont le dégel avait été exigé, mais on était dans le cadre d'une négociation, c'est-à-dire que l'administration Trump n'a pas dit « je m'assois sur votre décision ». L'administration a dit « je n'ai pas la même interprétation que vous sur votre décision ». Donc pour le moment, on n'en est pas encore à une administration Trump qui rejette les décisions de justice. Mmh. En revanche, personne ne peut dire aujourd'hui si on n'en arrivera pas à ce stade-là.
En attendant, chacun argumente juridiquement et on a l'obligation. Vous écoutez Culture Monde, c'est le premier épisode de notre série sur ces juges qui tentent de préserver la démocratie. Aujourd'hui, les juges fédéraux qui suspendent tous azimuts les décrets du gouvernement de Donald Trump. Suspendus aussi, en revanche, les poursuites engagées contre Donald Trump avant qu'il ne soit réélu.
France Culture. Culture Monde, Julie Gacon.
Visé par 4 poursuites pénales depuis 2023, Donald Trump bénéficie désormais d'une immunité liée à l'exercice de son mandat présidentiel. La plupart des affaires ont donc été suspendues, mais certaines brèches judiciaires restent ouvertes, puisque quand elles sont liées à des infractions commises au niveau des États, eh bien elles ne peuvent pas être soumises, ces infractions, au principe d'immunité présidentielle. Bonjour Benjamin Fiorini.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à Paris 8, membre des juristes pour le respect du droit international. Vous êtes l'auteur d'un article paru dans le Club des juristes le 7 janvier dernier sur le thème Donald Trump et la justice. D'abord, des 4 affaires pénales qui visent ou ont visé Donald Trump, il y en a 2 qui sont au niveau fédéral. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler lesquelles sans entrer dans les détails, mais histoire de se rappeler le paysage judiciaire autour du président?
Oui, effectivement, il y a 2 affaires qui ont eu lieu au niveau fédéral, qui sont pour l'heure suspendues, j'y reviendrai. Alors, une première affaire qui concerne la conservation par Donald Trump, après son échec à l'élection présidentielle de 2020, de documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago, qui ont donc donné lieu à des poursuites particulières, à l'inculpation de Donald Trump en 2023 par un grand jury. Et une deuxième affaire qui concerne à la fois l'assaut du Capitole, donc intervenu le 6 janvier 2021, et sa tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle au niveau fédéral. Là encore, dans cette affaire, il y a eu une inculpation faite par un grand jury en 2023. Ça veut dire que Donald Trump est formellement mis en accusation pour les différentes charges contre lui retenues à ce niveau-là. Mais là encore, les poursuites ont été suspendues du fait de l'accession de Donald Trump à ses nouvelles fonctions présidentielles.
Donc c'est cette coutume qui prévaut aux États-Unis. On ne peut pas poursuivre un président en exercice. Ça n'est pas le cas pour les affaires qui se déroulent ou qui se jugent au niveau des États. Alors lesquelles cette fois ?
Alors là, effectivement, de nouvelles affaires au niveau étatique. Alors une première affaire qui est arrivée à son terme, qui est l'affaire qu'on a appelée Stormy Daniels. Donc c'est une affaire dans laquelle Donald Trump a versé une somme colossale, $130 000, à cette ancienne actrice de film X pour éviter un scandale lié à ses relations sexuelles extra-conjugales, ce qui se traduit juridiquement par des infractions à la fois d'influence illégale sur les élections et de falsification de comptes pour justement procéder à ces versements. Cette affaire-là est arrivée à son terme, c'est-à-dire qu'il y a un jury populaire qui s'est prononcé, qui a condamné Donald Trump pour 34 chefs d'accusation. Néanmoins, le juge qui était censé prononcer la peine consécutivement à cette condamnation a finalement décidé, suite à l'élection de Donald Trump, une nouvelle fois, de le dispenser de peine. C'est-à-dire que dans cette affaire, Donald Trump est condamné, mais condamné à rien, donc dispensé de peine.
Il a abandonné
les charges.
Et l'affaire
est arrivée à son terme. Et exactement. Et la deuxième affaire, alors ça c'est une affaire très intéressante parce qu'elle est toujours en cours, c'est une affaire qui concerne l'État de Géorgie et qui concerne, là encore, la tentative de Donald Trump d'inverser les élections, le résultat des élections de 2020 spécifiquement dans cet État. Et cette affaire-là, effectivement, est toujours en cours. Alors, dans cette affaire, Donald Trump a été inculpé, donc mis en accusation en 2023. Et il pourrait encore être jugé, tout simplement, parce que, comme vous le disiez précédemment, la politique coutumière au niveau fédéral qui veut qu'on ne poursuive pas un président en exercice ne vaut pas au niveau des États. Et pour l'instant, cette affaire est suspendue parce qu'il y a une affaire dans l'affaire, en quelque sorte. C'est que la procureure qui était chargée de mener les poursuites contre Donald Trump avait désigné elle-même un procureur spécial pour assurer les investigations. Et il se trouve qu'on a découvert qu'il y avait une relation intime qui s'était nouée entre cette procureure, donc qui s'appelle Fanny Willis, et le procureur spécial qui s'appelle Nathan Wade. Et du fait de cette relation intime, les avocats de Donald Trump ont demandé tout simplement à ce que cette procureure soit disqualifiée. On pourrait traduire par récusée assez improprement. Et cette demande n'a pas connu de succès en première instance, mais a connu un succès en appel. Donc la cour d'appel a décidé qu'effectivement cette procureure devait être récusée et actuellement cette procureure essaye de faire en sorte que cette décision de la cour d'appel de Géorgie soit invalidée par la cour suprême de l'État de Géorgie. Mais pour l'instant la cour suprême n'a pas dit encore si elle entendait se saisir ou pas de cette affaire. Donc pour l'instant le processus est bloqué du fait de ce problème de nature procédurale finalement.
Alors même si la perspective est lointaine, on rappelait tout à l'heure qu'on en est qu'au 47e jour, c'est ça Ludivine Gili ? Non, 43e jour du mandat de Donald Trump depuis son investiture, mais est-ce que toutes ces affaires se rouvriront de toute façon à la fin du mandat de Donald Trump ?
Faut distinguer pour cela les affaires fédérales et puis la dernière affaire dont je vous parlais concernant l'État de Géorgie. Pour les affaires fédérales, les poursuites pour l'heure ont été suspendues. Le terme juridique pour l'indiquer, c'est « dropped without prejudice ». C'est le terme utilisé par le conseiller Jack Smith qui était en charge de l'instruction de ces affaires. Et « dropped without prejudice », ça veut dire que on a la possibilité, à l'issue du mandat présidentiel, de réouvrir ces affaires. Donc ça veut dire que ces deux affaires fédérales, l'affaire concernant les documents classifiés et l'autre concernant l'assaut du Capitole, pourrait, dans l'absolu, être ouverte à l'expiration du mandat présidentiel si un procureur en décidait ainsi. Il y aurait toutefois une difficulté juridique, là encore liée à un point de procédure qui concerne la prescription. Parce que la règle pour les infractions qui sont visées dans les deux cas, c'est que la prescription est acquise 5 ans après la date de commission des faits. Or, à l'expiration du mandat présidentiel, on aurait dépassé cette période de 5 ans. Mais du coup, on peut se demander si le fait que Donald Trump ne puisse pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat ne vient pas interrompre finalement l'écoulement de ce délai de prescription. Mmh. Et il y aura probablement une bataille juridique, si on devait en arriver là, autour de cette notion de prescription. Et pour ce qui est de l'affaire dans l'État fédéré de Géorgie, là, en revanche, on n'a pas d'obstacle actuellement à ce qu'elle puisse suivre son cours. L'obstacle, pour l'instant, est véritablement pur procédural. C'est justement cette décision qu'on attend de la Cour suprême de Géorgie par rapport à la récusation ou non de la procureure Fanny Willis. Et si jamais la Cour suprême de Géorgie devait confirmer cette décision selon laquelle la procureure Willis est récusée, dans ce cas-là, il faudrait procéder à la nomination d'un nouveau procureur pour instruire cette affaire. Et finalement, le sort procédural de Donald Trump dans cet État de Géorgie serait conditionné à la perception par ce procureur de cette affaire.
Alors attention, Benjamin Fiorini, au camion qui ne cesse de reculer près de vous, ça commence à m'inquiéter. En tout cas, il nous reste quelques minutes pour se demander si le fait que la Cour suprême ait pris en juillet dernier une décision plutôt favorable à Donald Trump, en tout cas on l'avait commenté comme ça, Donald Trump à l'époque, il demandait une immunité présidentielle totale. Cette demande-là n'a pas été accordée. En revanche, on a néanmoins parlé de victoire pour celui qui n'était encore qu'ex-président. Pourquoi ? Comment la décision prise en juillet dernier par la Cour suprême pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump à moyen terme ?
Oui, alors c'est la décision dont vous parlez, c'est une décision du 1er juillet 2024 qui effectivement a constitué une assez importante victoire pour le camp de Trump parce qu'elle a redéfini les contours de l'immunité présidentielle. Alors ce que dit cette décision, qui en vérité est assez compliquée, hein, elle est assez complexe dans son organisation, c'est qu'il faut distinguer trois types de faits. Il y a les faits qui relèvent, on va dire, du cœur du pouvoir constitutionnel du président, qui, s'ils sont commis dans le cadre de ce pouvoir du président, ne peuvent pas donner lieu à poursuite. Donc il y a une immunité totale finalement pour ce type de faits. À côté de ça, vous avez les faits qui sont de nature privée, que pourrait commettre un président en exercice, mais qui ne sont pas du tout rattachables à sa fonction. Et pour ces faits-là, la Cour suprême dit qu'ils peuvent donner lieu à poursuite. Et entre les deux, vous avez une zone grise, donc des faits qui peuvent relever de la fonction, mais qui à la fois peuvent revêtir une nature privée. Et la Cour suprême donne quelques indications pour, dans ces cas-là, déterminer si ces faits sont couverts ou non par l'immunité. Ça signifie que dans les quatre poursuites dont on a parlé, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États fédérés, on a eu des discussions pour savoir ce qui finalement pouvait relever du champ de l'immunité ou non. Et ça a amené notamment le procureur Smith pour les affaires fédérales à revoir certains chefs d'accusation. Il y a par exemple dans l'affaire de l'assaut du Capitole un certain nombre de chefs d'accusation qui ont été abandonnés suite à cette décision de la Cour suprême. Initialement, il y avait 13 chefs d'accusation, il n'y en a plus que 8 aujourd'hui. Donc de ce point de vue, effectivement, ça a conduit à l'abandon de certaines charges dans certaines procédures, ce qui est au bénéfice finalement de Donald Trump.
Et une toute dernière question, Benjamin Fiorini, pour conclure, est-ce que Donald Trump peut s'auto-gracier en quelque sorte ?
Eh bien, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Le problème est que la Cour suprême n'a jamais répondu à cette question précisément. Alors, il y a effectivement un article de la Constitution américaine, le deuxième article, qui prévoit que le président a un droit de grâce pour toutes les procédures fédérales, et sauf en cas d'impeachment. Donc là, ça veut déjà dire que ce droit de grâce, il ne pourrait pas jouer pour l'affaire géorgienne, qui est une affaire qui intervient au niveau des États. En revanche, il pourrait jouer, dans l'absolu, pour les deux affaires fédérales. Ceci étant, les auteurs américains, la doctrine américaine, expriment des opinions divergentes à ce sujet. Vous avez des auteurs qui considèrent que si le président venait à s'autogracier, ça violerait un certain nombre de principes. Ça violerait déjà un principe en la confiance publique. Ça violerait également des dispositions de la Constitution qui prévoient que ce droit de grâce doit être accordé. Et certains auteurs considèrent que par le mot accord induit forcément une altérité. On accorde quelque chose à quelqu'un d'autre et pas à soi-même. De la même façon, le mot américain pour dire grâce, c'est le mot pardon. Et il y a des auteurs américains qui considèrent que le pardon ne peut pas être accordé à soi-même, que là encore, ça suppose une altérité, qu'on n'accorde pas un pardon à soi-même. Il y a également un principe qui avait été évoqué par le département de la justice américain lors de l'affaire du Watergate, dans un mémo, et qui dit que, a priori, le président américain ne peut pas s'autogracier parce que ça porterait atteinte au principe selon lequel on ne peut pas être juge et partie dans la même affaire. Et un président qui s'autogracie, il est d'une certaine façon juge et partie.
Oui, il y a même pas des auteurs qui... Oui, en quelques mots, s'il vous plaît, Benjamin Fiorini, on arrive vraiment à la fin de cette émission.
Oui, simplement pour dire, ce dernier point, il y a des auteurs qui considèrent en fait que ça porterait pas atteinte au principe selon lequel on peut pas être à la fois juge et partie, parce que le président interviendrait dans le cadre de son mandat exécutif et non en tant qu'autorité judiciaire.
Merci beaucoup Benjamin Fiorini d'avoir été avec nous. Je renvoie les auditeurs vers votre article « Donald Trump et la justice, où en est-on ?» paru dans la revue du Club des juristes en janvier. On entend bien en tout cas, que Ludivine Gili, que les juristes sont en ébullition en fait aux États-Unis. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on peut compter sur tous les pare-feux activés ici et là, que ce soit des juges mais aussi de tous ceux qui réfléchissent sur le fond en termes de droit pour en ce moment vraiment faire en sorte que l'État fédéral ne soit pas trop affaibli à long terme, parce que tout est question aussi là de long terme.
C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. On voit, du fait des nombreux recours qui s'opposent aux actions exécutives de Donald Trump, qu'il y a aujourd'hui un mouvement d'opposition qui passe par les tribunaux et qui rencontre un certain succès. Mais pour le moment, ça n'est pas sur le fond. En revanche, un certain nombre d'actions ont été suspendues temporairement. La question qui se pose, c'est que se passera-t-il à long terme, quand les juges vont se prononcer sur le fond ? Et la question encore plus grande qui rôde autour, c'est quelle position prendra la Cour suprême ? sur ces sujets-là, et en particulier sur les sujets les plus importants.
Et ont-ils le souci affiché de préserver les institutions, quelle que soit leur sensibilité politique? Ces juges de la Cour suprême qui sont 9, dont 6 juges conservateurs, dont 3 nommés par Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ludivine Gilly et Vincent Michelot. Je remercie aussi Chantal Nouvelot qui vous accueillait, Vincent Michelot, dans les studios de Radio France à Lyon. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et la presse s'interroge ce matin, Catherine, sur le bouleversement de l'ordre mondial après l'altercation de vendredi à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Donald Trump et Vladimir Poutine sont-ils en train de calquer les relations diplomatiques sur le modèle mafieux? C'est la question posée par The Economist. Comparaison littéraire et cinéphile même, les États-Unis ont une approche digne de Don Corleone sur l'Ukraine. Du parrain donc de Puzo et Coppola, s'inquiète le magazine économique britannique et le Washington Post. Le locataire de la Maison Blanche et le maître du Kremlin ne sont que deux gangsters qui arrivent à s'entendre, affirme également l'essayiste indien Pankaj Mishra dans les colonnes d'El País, et ce n'est ni plus ni moins qu'un bouleversement des relations diplomatiques établies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, souligne le Washington Post et The Economist. Alors que les alliés européens de Kiev ont resserré les rangs hier à Londres, rappelle l'agence de presse ukrainienne Interfax Ukraina, en Russie, la Komsomolskaya Pravda préfère titrer, elle, sur l'absence de plan d'action concret et d'ironiser sur une photo officielle où l'on voit, je cite, Emmanuel Macron, la tête levée vers le ciel, s'adressant à des puissances supérieures, Zelensky chuchotant avec le Canadien Trudeau, regard nerveux vers Giorgia Meloni, l'allié de Trump et Musk, le chancelier allemand sortant, Scholz, rayonnant comme un soleil, pensant probablement « J'ai sauté à temps », écrit encore la Komsomolskaya Pravda. Washington s'aligne désormais sur Moscou, s'est félicité hier à la télévision d'État russe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité également par le Washington Post, et la réécriture par l'administration Trump de décennies de politique étrangère américaine à l'égard de la Russie, ajoute le Washington Post, a stupéfié les dirigeants russes. Le bureau ovale a vu beaucoup de choses, mais ça, jamais, a déclaré la rédactrice en chef de Russia Today. L'ancien président Dmitri Medvedev s'est réjoui de la gifle bien méritée, infligée à Zelensky. Silence radio de Vladimir Poutine, note la BBC. Il n'a qu'à rester assis, les bras croisés et regarder les événements se dérouler. Dans ce nouvel ordre mondial, tout n'est qu'affaire de transactions, tout est à prendre, regrette The Economist. Des territoires, technologies, minerais, production de pétrole, contrats de construction, l'utilisation aussi du service satellite Starlink d'Elon Musk.
Et d'ailleurs, le Kremlin courtise les entreprises occidentales pour qu'elles reviennent en Russie.
À la faveur du dégel des relations entre Washington et Moscou, explique le Moscow Times, mais aussi l'hebdomadaire économique polonais Warsaw Business Journal et le journal ukrainien Kyiv Independent. Sachant tout de même que toute entreprise souhaitant revenir en Russie devra faire face à des obstacles considérables, environnement juridique incertain dans un pays toujours en guerre et visé par des sanctions internationales, rappelle le Financial Times. Mais Kirill Dmitriev, le nouvel envoyé spécial de la Russie pour la coopération économique étrangère, c'est parler gros sous pour convaincre l'administration Trump, indique le New York Times. Il affirme que les entreprises américaines ont perdu plus de 300 milliards de dollars depuis qu'elles ont quitté la Russie, ajoute le Financial Times. Et ces dernières semaines, des médias russes comme RBK, RIA Novosti et les chaînes Telegram proches du Kremlin soutiennent que de grandes marques occidentales telles que Zara, Uniqlo, Coca-Cola, Visa et Mastercard songent à remettre un pied sur le sol russe. Un ancien espion, allié de Vladimir Poutine fait même pression, affirme le Financial Times, pour relancer le gazoduc russe Nord Stream 2 avec le soutien des États-Unis. Et puis, autre signe de détente, le Pentagone a décidé de suspendre ses cyberopérations contre la Russie, annonce CNN, ce qui risque de rendre les États-Unis plus vulnérables aux cyberattaques potentielles de Moscou contre les infrastructures critiques américaines, alerte le New York Times, risque accru également de collecter des renseignements sensibles et d'un influencer des élections.
Et cette stratégie de Donald Trump choque de nombreux États-Unis.
Des drapeaux jaunes et bleus ont été brandis ce week-end par des milliers de personnes dans des manifestations à Washington, près de la Maison Blanche, à Boston, à Chicago, Los Angeles.
Stand for freedom! Stand for freedom!
Manifestation en faveur de l'Ukraine également à Whitesfield, comité d'accueil glacial pour Jade Evans, venu ce week-end dans le Vermont pour faire du ski, montre le Guardian et la BBC. Ce que Donald Trump a fait en fin de semaine est une honte pour les États-Unis, raconte une manifestante dans une vidéo relayée notamment par le Guardian. Preuve de résistance contre un parrain de la mafia qui espère partager des territoires avec la Russie, comme le font les chefs de la Cosa Nostra, accuse l'éditorialiste Thomas Friedman dans les pages du New York Times. Donald Trump cherche à profiter des Ukrainiens en tirant parti de l'invasion de leur pays par Poutine, sans rien exiger du Kremlin en matière de réparation, sans garantir non plus que Washington protégera Kiev à l'avenir. Tandis que le but ultime du Kremlin pourrait tenir en quelques lettres pour parodier le slogan Trumpiste, non pas MAGA, Make America Great Again, mais Make Russia Great Again, rendre sa grandeur à la Russie, conclut le New York Times. Poutine voit en Trump l'instrument grossier pour gérer ce déclin inévitable.
Merci beaucoup Catherine Dutu.